niveau mondial, le nombre de personnes qui sont déplacées de force dans le monde a grandement augmenté. On est à peu près à 66 millions de personnes. Ce que l'on peut comparer au chiffre de 2009, par exemple, où là, leur chiffre se situe à 42 millions. Donc, pour ce qui s'agit des personnes qui sont sous le mandat du HCR, les réfugiés, les personnes apatrides, les déplacés internes dont nous nous occupons, leur chiffre a augmenté de 70% depuis 2009. Donc on voit que la situation en Europe a évolué et pour autant dans le reste du monde, il y a énormément de déplacements forcés. Donc comme je l'ai indiqué, on est passé de 42 à 60 millions de personnes déplacées de force entre 2009 et cette année.
Vous avez parlé justement de l'Europe, mais en dépit du recul des traversées par la Méditerranée centrale, est-ce à dire que des milliers de gens ne tentent plus ces traversées périlleuses et désespérées pour rejoindre l'Europe?
Je pense qu'il faut remettre les choses en perspective. Il y a moins de traversées, mais elles continuent à se produire. On a, depuis le début de l'année, à peu près 3000 personnes qui ont péri la vie ou ont disparu en essayant de rejoindre l'Europe à travers ces embarcations très frêles. Il faut noter qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont bloquées en Libye. C'est un pays où nous avons fortement augmenté nos activités, mais où nous sommes restreints par les conditions sécuritaires extrêmement difficiles. Il faut noter aussi qu'il y a de plus en plus de routes diversifiées qu'empruntent à la fois des réfugiés, donc des gens qui ont besoin de protection internationale et les migrants, avec des points de départ maintenant de l'Égypte, de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie et des nouveaux points de traversée. Par exemple, on a vu des personnes arriver par bateau de la Turquie à la Roumanie, c'est-à-dire des traversées qui n'avaient pas eu lieu depuis février 2015. Donc il y a des nouvelles tendances qui se dessinent.
Est-ce que vos équipes sur le terrain ont des explications par rapport à ces changements d'itinéraire entrepris par les réfugiés et les migrants dans ces voyages périlleux vers l'Europe ?
C'est une situation complexe. D'abord parce qu'on n'est pas suffisamment présent dans l'étendue immense qu'est le Sahara, hein, qui est la taille de l'Europe. Donc nos équipes sont pas suffisamment nombreuses pour pouvoir avoir une vision très fine de ce qui se passe dans le Sahara. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui y perdent la vie. On voit donc une diversification de ces routes utilisées par les migrants et les réfugiés pour rejoindre l'Europe. On a un phénomène à la fois en Libye, où on a à la fois des gens qui étaient là parfois depuis des années, puis qui finalement trouvent que les conditions sont tellement difficiles qu'ils se sentent obligés de partir. Pour l'essentiel, ils continuent ou à essayer de prendre les bateaux, ou ils sont bloqués tout simplement en Libye. Et ils sont des dizaines de milliers dans cette situation. On commence à voir par certains endroits des retours vers les pays d'origine. Et puis, on a une diversité des points de départ que je mentionnais auparavant. Mais on n'a pas, si vous voulez, un phénomène massif selon lequel les gens ne pouvant plus partir de la Libye se déplaceraient vers les pays voisins. Ce n'est pas un phénomène qu'on a observé à ce jour.
Et la chute des arrivées en Grèce est la conséquence directe des accords entre l'Union européenne et la Turquie. Et pour les arrivées en Italie, on semble opter le même scénario en transférant le dossier à la Libye. Sauf que ce pays reste toujours en guerre avec son lot d'abus et d'atrocités pour les migrants subsahariens.
Il nous faut en fait une approche globale à cette problématique. Tout d'abord, il faut trouver des solutions politiques aux situations de crise qui font fuir les personnes et les réfugiés. Deuxièmement, il faut, si vous voulez, régler les problèmes à la base, y compris les problèmes de développement, les problèmes de pauvreté qui font que les gens fuient en quête de meilleures opportunités économiques. Et puis pour les gens qui ont besoin de protection internationale, qui eux n'ont pas le choix de partir parce qu'ils fuient la guerre, ils fuient la persécution, ils ne peuvent pas être protégés par leur pays d'origine. Et bien pour ces gens, il faut aussi offrir un espace d'asile dans les pays voisins pour qu'ils ne soient pas contraints de continuer ces traversées très dangereuses et de risquer leur vie pour obtenir cette protection internationale. Maintenant, pour les personnes qui se trouvent en Libye, effectivement, il faut trouver des solutions. Il faut le faire rapidement au regard des situations très compliquées, très dangereuses auxquelles ils sont confrontés. Nous avons mené une première opération d'évacuation le 11 novembre d'un petit groupe de 25 réfugiés extrêmement vulnérables et nous espérons continuer ces évacuations. Mais il faut aussi, bien sûr, créer davantage d'alternatives crédibles à ces traversées dangereuses. Ça veut dire aussi davantage de places de réinstallation. Ça peut être des visas étudiants ou des visas pour des motifs humanitaires. Il ne faut pas que l'Europe ferme ses portes. Il faut que des alternatives crédibles existent.
Dernière question, Cécile Pouilly. Où en êtes-vous sur ces négociations sur le pacte mondial sur les réfugiés, mais aussi ce pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières?
Le pacte, le travail autour du pacte est en cours. Il y a eu des réunions sur ce sujet pour faire l'inventaire des initiatives qui sont en cours. Pour certaines, elles sont très prometteuses. Nous avons développé notre partenariat, par exemple, avec la Banque mondiale. Nous travaillons beaucoup avec les acteurs du développement. Il y a de nombreux pays qui ont rejoint cette initiative, mais il faut énormément de volonté politique pour que l'engagement qui a été pris lors de la déclaration de New York l'année dernière, en 2016, donc en septembre, soit traduite en termes très concrets afin qu'on trouve davantage de solutions pour les réfugiés, pour permettre leur intégration dans les communautés d'accueil, pour qu'ils puissent avoir accès à l'éducation, à la santé, à des moyens de vie concrets et pour trouver des solutions sur le long terme à leur sort. Donc ça va nécessiter beaucoup d'efforts de notre part, mais bien sûr aussi de la communauté internationale dans son ensemble, pour traduire en termes concrets cet engagement politique et pour améliorer la vie des gens sur le terrain.